Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Avec Christine ce matin, bonjour Christine, et Francis à la régie, bonjour Francis.
Et bonjour Francis aussi, ouais, au micro, il y a toujours deux. Les deux Francis et on est content de les retrouver aujourd'hui.
Bonjour à vous deux, et nous parlons ce matin d'Illusions perdues, le roman Fleuve d'Honoré de Balzac, qui a été adapté et mis en scène par Pauline Bell, et c'est un spectacle important puisqu'il dure 2h30 sans entracte à la grande salle de la Comédie de Colmar.
Oui, vous pourrez le voir le jeudi 21 mars à 19h et le vendredi 22 mars à 20h. Un spectacle à ne pas manquer si vous trouvez encore des places, parce que bien sûr, comme c'est un classique qui est adapté au théâtre, beaucoup de gens déjà se sont précipités pour acheter les billets.
Alors c'est un grand roman important, aujourd'hui considéré comme un des plus passionnants de Balzac, dans l'ensemble de la comédie humaine. Nous allons en parler un tout petit peu parce que beaucoup ont vu le film de Giannolis, qui facilite déjà les choses parce que vous avez en tête les personnages. Pauline Bell, qui a d'une certaine façon monté ce spectacle presque au même moment où se tournait le film de Giannolis, me semble-t-il,
il y a
eu beaucoup de César, mais le théâtre a lui aussi de l'intérêt dans cette affaire-là, parce que de toute façon, il s'agit au XIXe siècle d'un grand théâtre social. La comédie humaine est un grand théâtre social.
Oui, d'ailleurs, le choix du terme de comédie n'est bien sûr pas un hasard, et ça indique bien effectivement que toute la société du XIXe siècle est elle-même une sorte de grand théâtre.
Hein. Voilà, alors comment peut-on mettre en scène en 2h30 une pièce pareille? Évidemment, le cinéma l'emporte par les images, le mouvement, mais le théâtre, c'est pas tout à fait la même chose. Et en même temps, je crois que ce spectacle est très réussi pour différentes sortes de raisons dont nous allons parler. Et peut-être faut-il d'abord quand même, parce que peut-être que tout le monde n'a pas lu Les Illusions perdues, et même si vous avez vu le film, vous ne vous rappelez pas de tout, peut-être quand même rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit. Alors, le héros central, n'est-ce pas, Christine, s'appelle Lucien Chardon.
Oui, alors son père est apothicaire, donc il est roturier par son père, et sa mère est une noble qui vit à Angoulême, et cette noble s'appelle de Rubempré. Alors on connaît souvent plutôt Lucien de Rubempré que Lucien Chardon, mais c'est tout l'itinéraire de ce jeune homme qui va aller de Chardon à de Rubempré qui nous est raconté.
Et c'est un itinéraire qui va de Angoulême à Paris, et qui retourne d'une certaine façon à Angoulême. Alors, le roman est en trois parties. La première partie qui se passe à Angoulême s'appelle Les deux poètes, parce que Lucien de Rubempré ou Chardon a un ami qui s'appelle David Séchard, qui sera le mari d'ailleurs de la sœur de Lucien qui s'appelle Ève. David Séchard hérite ou va hériter d'une imprimerie. Et donc on est dans le monde au fond de l'imprimerie, des papiers, du journalisme, de la littérature, dans ce monde qui est l'arrière, je dirais, du monde littéraire en général, voire du journalisme en général.
Et oui, parce que ça se passe dans les années 1820, donc c'est une période un petit peu particulière aussi.
En pleine restauration.
En pleine restauration, tout à fait. Et on a l'impression que dans ce roman, Balzac a beaucoup mis de lui-même, puisque lui aussi est un écrivain ambitieux qui veut absolument parvenir, réussir, et qu'il aura été confronté au monde du journalisme, au monde de l'édition, et que cette question de l'ambition et de la réussite, de vouloir avoir de l'argent, de la gloire et de l'amour, c'est vraiment aussi une préoccupation balzacienne.
Oui, et nous sommes au départ à Angoulême, et à Angoulême, Lucien a une relation avec une marquise qui est...
Oui, la marquise de Bargenton.
Voilà.
Oui.
Et les deux, une fois cette relation découverte, d'ailleurs, la marquise en question voulait partir de la province. province. Il s'agissait de quitter la province pour elle, et ils vont quitter la province tous les deux. Donc on passe assez rapidement d'ailleurs dans le spectacle. Mais finalement, dans le roman aussi, on passe de Angoulême à Paris. Cette deuxième partie, qui est le centre de
l'œuvre, en
de
fait.
De l'œuvre.
Oui, s'intitule Un grand homme de province à Paris. Voilà. Hein, donc c'est aussi d'ailleurs, pareil pour Balzac, hein, qui était originaire plutôt du sud-ouest, hein, du Tarn, et qui s'appelait non pas Honoré de Balzac, mais simplement Balsa. Et donc là, cet itinéraire d'un grand homme de province à Paris, c'est aussi sans doute celui de Balzac.
Voilà, donc Lucien arrive à Paris avec Madame de Bargenton et très vite ils se séparent parce que Madame de Bargenton a sans doute autre chose à faire et ambitions que d'être simplement la maîtresse de quelqu'un d'inconnu. C'est sans doute un grand homme, mais il voudrait
pas
le devenir. Il ne l'est justement pas encore.
Et
d'ailleurs, c'est lui qui va se heurter à un monde qui lui montrera que toute cette ambition n'est qu'une immense illusion. Il retournera ensuite à Angoulême, mais cette partie-là ne se trouve pas dans le théâtre. Elle est à peine esquissée.
Elle est rapidement évoquée, parce que c'est vrai qu'il y aura toutes sortes d'intrigues. Donc le jeune Lucien Chardon, abandonné par Madame de Bargenton, se retrouve dans la misère, en fait, à Paris, sans savoir ce qu'il va advenir. Et il va traverser différents cercles, parce que ce qui est intéressant dans ce roman aussi, c'est en fait, il dépeint plusieurs couches de la société, donc voilà. Le milieu aristocratique et le milieu journalistique et littéraire, le milieu du théâtre, et Lucien va aller traverser tous ces milieux.
Alors le premier milieu, c'est d'une certaine façon, il a des ambitions littéraires, il veut écrire un roman, qui sont les ambitions littéraires de Balzac d'ailleurs, qu'il aura réussi lui.
Oui.
Il a des ambitions littéraires et évidemment ça lui permet de rencontrer un premier milieu qui est ce qui s'appelle le Cénacle, qui est plutôt intéressant comme tel, mais c'est un milieu qu'on nommerait aujourd'hui de gauche, qui à l'époque est libéral d'une manière,
oui,
d'une manière ou d'une autre.
Oui.
En même temps, il commence à avoir des liens malgré tout avec l'ennemi de ce milieu-là, qui est le monde des aristocrates, moyennant des liens qu'il entretient quand même lointainement avec Madame de Bargenton, et puis une autre marquise qui est la marquise d'Espard, qui sera terrible.
Qui va s'avérer effectivement extrêmement dangereuse pour lui.
Dangereuse. Et puis, comme tout cela prend du temps et qu'on n'est pas immédiatement reconnu, parce que pour être reconnu comme un grand écrivain, il faut d'abord être vu quelque part, avoir déjà accès à la plume, il va rentrer dans le journalisme. C'est quelqu'un qu'il rencontre qui s'appelle Étienne Lousteau, dans le film d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film avec Vincent Lacoste, se rappelle de cette rencontre de Lucien de Rubempré avec Étienne Lousteau. Et Étienne Lousteau va donc l'emmener dans ce terrible monde du journalisme qui est encore certainement celui d'aujourd'hui. Alors voilà ce que lui dit Lousteau.
Alors c'est pas Lousteau qui lui dit, c'est Félicien Vernou, mais en fait, pour vraiment montrer ce qu'est ce monde de la littérature. Vous entrez dans le monde littéraire avec des illusions. Nous sommes tous amis ou ennemis selon les circonstances. Bientôt, vous comprendrez que vous n'obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous êtes bon, faites-vous méchant. Soyez hargneux par calcul. Et si personne ne vous a dit cette loi suprême, je vous la confie et vous me devrez beaucoup. Pour être aimé, ne quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu. Et pour faire fortune en littérature, blessez tout le monde, surtout vos amis. Visez les amours propres, attaquez-les, mordez-les et le monde vous caressera. Alors pour la belle âme qu'est encore le jeune Lucien Chardon, évidemment ses conseils sont d'une grande dureté, mais c'est ce qui va être amené.
Il va très vite d'ailleurs comprendre ce qu'il faut faire, et pour des raisons qu'on ne dévoilera pas, parce que évidemment tous ces milieux sont présents dans le spectacle. Vous allez voir comment, d'ailleurs, on en parlera un tout petit peu après. Mais Lucien, journaliste, va être amené, au fond, à dire du mal de choses qu'il aime par ailleurs. C'est-à-dire, oui, parce que dire du mal, c'est finalement être célèbre. Parce que descendre un texte, descendre un article, descendre une pièce de théâtre, c'est avoir du pouvoir. Et ce pouvoir, il va l'obtenir précisément par des formes de corruption, très vite d'ailleurs.
Oui,
choses vont se passer comme ça.
Et comment on passe effectivement des compromis que l'on est obligé de faire pour pouvoir avoir une place dans la société, à la véritable compromission qui fait qu'à un bout d'un moment, on est totalement piégé aussi.
Oui, alors il est évidemment plutôt libéral, puisqu'il se trouve du côté justement de ce cénacle, mais va être amené précisément en tant que journaliste à mettre très, très mal ou très à mal de ces textes de Daniel d'Arthez
oui,
en question,
qu'il admire,
qu'il admire par ailleurs.
Voilà, il va devoir aussi, il me semble, passer d'un bord politique à l'autre pour soutenir aussi la jeune femme qu'il aime et qu'il aime et qui est Coralie, une actrice.
Voilà, alors
il va devoir passer du côté
des
royalistes.
C'est un moment important, parce que c'est au théâtre, justement, qu'on rencontre en général le beau monde. Donc le théâtre, et puis quand on est journaliste, l'important c'est de faire un papier concernant évidemment ce qu'on a vu et concernant les acteurs et les actrices. Et il rencontre donc, c'est un moment extrêmement important, Coralie. Alors Coralie est une jeune femme qui se fait en attendant entretenir, mais qui va tomber éperdument amoureuse.
Oui, alors
de
c'est assez
Lucien,
drôle parce
Rubin
qu'elle va tomber après. Amoureuse alors qu'elle le voit pendant qu'elle joue assis très proche de la scène.
Ça arrive parfois.
Ça arrive, voilà. Donc effectivement, les comédiens voient les gens du public. Hein, c'est la preuve dans le roman.
S'ils sont beaux, parce que paraît-il, Lucien était beau. Alors voilà
c'est... bien sûr. Oui.
Et donc, se noue une idylle entre Lucien et Coralie, ce qui l'amène aussi dans un autre monde qui est le monde du théâtre. Alors, dans la pièce, Coralie dit un poème. C'est comme ça qu'elle apparaît. Et évidemment, Pauline Bell a changé ce poème. Ce n'est pas le poème de l'époque, c'est un autre poème. On en entend peut-être quelques mots, parce qu'on en dira un mot après.
Oui, parce qu'effectivement, dans le texte de Balzac, c'est un vaudeville de bas étage, en fait. Alors que là, c'est un très beau texte de
Verhaeren. Hein.
Tous les chemins vont vers la ville. Du fond des brumes, là-bas, avec tous ses étages et ses grands escaliers et leurs voyages jusque au ciel, vers le plus haut étage. Comme d'un rêve, elle s'exhume. Là-bas, ce sont des ponts tressés en fer, jetés par bonds à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que dominent des faces de gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs, ce sont des toits et des pignons. En vol plié sur les maisons, c'est la ville tentaculaire, debout, au bout des plaines et des domaines, des clartés rouges qui bougent sur des poteaux et des grands mâts. Même à midi, brûlent encore comme des œufs monstrueux d'or, le soleil clair ne se voit pas. Bouche qu'il est de lumière, fermée par le charbon et la fumée.
Paris est, en ce premier milieu du XIXe siècle, une des plus grandes villes où il se passe le plus de choses, évidemment, là où va se développer toute la culture. Paris sera le grand centre culturel du monde au XIXe siècle. Et il l'est déjà à ce moment-là, où il commence à l'être. Là aussi, bon, comme d'ailleurs Pauline Bell le pense et le sait, c'est que nous avons un capitalisme qui n'est pas simplement un capitalisme, ça concerne l'argent, mais ça concerne surtout les biens culturels. C'est-à-dire, les biens culturels sont déjà, finalement, des biens qu'on vend, qu'on achète, qui sont pris complètement. Ce n'était certainement pas le cas de la même façon au XVIIIe, mais dès le XIXe siècle, eh bien, c'est l'esprit, lui aussi, qui devient une marchandise.
Oui, et Pauline Bell cite d'ailleurs le théoricien Georg Lukács, qui parlait de la capitalisation des esprits. Donc, on est déjà dans un monde, même si c'est encore un monde précaire, capitaliste, mais on voit qu'il est déjà très fortement à l'œuvre, puisque tout s'achète, les amitiés s'achètent, les réputations s'achètent, les œuvres s'achètent, et cette capitalisation des esprits peut faire très fort penser aujourd'hui à la marchandisation générale et globalisée dans laquelle nous vivons. Et Pauline Bell, je crois, s'est intéressée particulièrement à ce roman parce qu'on peut y trouver un écho très fort par rapport à cette importance de la valeur de l'argent au cœur même de notre société à nous aussi.
Oui, et d'autres valeurs, c'est-à-dire ce qui étaient des valeurs qui sont celles de l'art en général ou de l'écriture ou de la communication sont entièrement prise et intégrée à cette question de l'argent,
c'est-à-dire oui, que parce d'ailleurs, que cette question d'ailleurs, ce de la fera, publicité aussi, de la réputation,
ce qui fera de Lucien de Rubempré un être relativement corrompu. D'ailleurs, il le sera dans la suite des Illusions perdues, dans Grandeur et misère des courtisanes. D'ailleurs, on verra pourquoi d'une certaine façon à la fin de la pièce. Alors, évidemment, tout cela conduit à ce que ce que devait être une grande gloire littéraire et puis finalement un être exceptionnel, eh bien, cela se heurtera à de très grandes illusions. Et écoutons
oui,
un tout petit peu de
écouter
musique.
Une chanson sur le thème des illusions perdues.
À l'âge où l'on croit à l'amour, j'étais seul dans ma chambre un jour pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Les mains dans tes poches trouées, mais riches de tes illusions. Petit jeune homme au poing serré, elle est pour toi cette chanson. Avec la dignité d'un prince, en regardant droit devant toi, tu fuis ta ville de province. Je te vois comme si c'était moi. Les lumières de la grande ville brillent au loin comme un signal. À toi la vie facile. À toi tous les violons du bal. Attention, méfie-toi, on ne revient jamais sur ses pas, on ne retrouve plus, jamais non plus, ses illusions perdues, ses illusions perdues. Des dents à dévorer le monde, les yeux plus grands que l'horizon, et les muses qui te répondent et t'appelle par ton prénom. Tu fais tes premiers tours de danse au milieu de la société, et tu crois que les apparences sont filles de la vérité. Tu les fais rire, tu les étonnes, les jolies femmes, les beaux messieurs. Les filles se prêtent, se donnent, et toi tu te prends pour un dieu. Attention, méfie-toi, on ne revient jamais sur ses pas, on ne retrouve plus, jamais non plus, ses illusions perdues, ses illusions perdues. Un jour en sortant d'une ivresse, tu te sens vaguement trahi. Tu viens de perdre une maîtresse et tu ne trouves plus d'amis. Tes mots d'esprit ne font plus rire et ton éditeur t'a menti. Les rangs ont quitté le navire, personne ne te fait plus crédit. Alors tu penses à ton village, à ton enfance, à ton passé. Tu voudrais refaire le voyage, tu voudrais tout recommencer. Attention, méfie-toi, on ne revient jamais sur ses pas, on ne retrouve plus, jamais non plus, ses illusions perdues. Attention, méfie-toi, on ne revient jamais sur ses pas, on ne retrouve plus, jamais non plus, ses illusions perdues.
Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar avec Christine ce matin. Nous parlons des illusions perdues dont vous venez d'entendre la chanson de Charles Dumont, d'ailleurs qui reprend très très rapidement sous forme de chanson l'histoire des illusions perdues de Balzac.
Oui, vous pourrez voir le spectacle le jeudi 21 mars à 19h et le vendredi 22 mars à 20h dans la grande salle de la Comédie de Colmar. La durée du spectacle est de 2h30, ce qui est une sorte de gageure puisque le roman, lui, fait 700 pages et que Pauline Bell, dans son adaptation, a réussi à le condensé. C'est d'ailleurs un roman où c'est pas tant les descriptions qui sont très développées, contrairement à l'ensemble de l'œuvre de Balzac, mais Pauline Bell y a trouvé des dialogues extrêmement vifs, extrêmement bien écrits et qui peuvent s'adapter au théâtre. Et elle a essayé de condenser vraiment. Normalement, il y a plus de 70 personnages. Alors oui, que là, il y en aura, je crois, que 17.
Voilà, oui, parce que au fond, tous ces milieux que Lucien de Rubempré traverse vont, à un moment donné, le conduire à la chute. Chute terrible, parce que on va se servir de Coralie. La jeune amoureuse de Lucien qui va en mourir littéralement.
Elle sera obligée, je crois, de renouer avec le personnage qui l'entretenait et qu'elle avait quitté pour pouvoir aimer Lucien, mais parce que Lucien est terriblement endetté, elle va devoir passer une nuit avec son ancien souteneur, en quelque sorte, enfin son ancien protecteur plutôt, et ce protecteur paiera toutes les dettes de Lucien, mais Coralie va en mourir.
Coralie va en mourir, voilà. Et Lucien est au bout de, à la fois de sa vie, de son argent et de ses amours.
Oui, et il va d'ailleurs à ce moment-là partir de Paris et vouloir se suicider. Mmh, et oui. En fait, il sera retenu du suicide.
Par un étrange personnage qui est en fait qui sera Vautrin.
Oui, oui.
Qui s'appelle à ce moment-là Carlos Herrera. Et il fera pacte. Herrera, Vautrin fera pacte avec lui. Il sera à son service dans un prochain roman. On va dire que c'était la série.
Déjà la peau de chagrin se dessine.
Ouais, c'était la série du 19e siècle.
Tout à fait, tout à fait. Alors, pour arriver à jouer tous ces personnages, il n'y aura au plateau finalement que 5 acteurs et actrices.
Et surtout, ce qui est extrêmement important, dans le rôle premier de Lucien de Rubempré, une femme.
Oui, et d'ailleurs la question justement du genre n'est pas du tout quelque chose que va respecter Pauline Bell. Elle va faire jouer aussi bien à des hommes qu'à des femmes tous les rôles qu'elle a retenus. Et en fait, je pense que pour essayer d'identifier les personnages, parce que vous allez découvrir l'histoire au fur et à mesure, il n'y a pas de retour en arrière, même si nous avons un peu divulgaché le contenu de l'histoire. Vous allez découvrir progressivement les personnages, il y aura un dynamisme très fort avec des changements, et ces changements seront traduits par des accessoires et des costumes qui vont permettre d'identifier qui est qui, mais ne vous attendez pas à avoir un réalisme balzacien sur le plateau.
Alors que ce soit une femme, c'est quand même bien particulier, puisque bon, il n'empêche évidemment, en ce moment à Paris se joue une pièce, mais ce fut le cas souvent déjà, où Hamlet est une femme, mais là c'est Lucien de Rubempré qui est une femme. Alors il y a une dimension féminine incontestable chez Lucien de Rubempré,
oui,
qui est sans doute une des dimensions aussi de Balzac. Donc c'est tout à fait compréhensible, d'autant plus que finalement, à la fois cette naïveté et cette faiblesse peuvent être aussi bien masculin que féminin, et d'où l'intérêt de la chose. Alors c'est un premier point étonnant, évidemment, au niveau des rôles, au niveau du genre. Mais il y a autre chose, c'est que vous allez, passer du monde d'Angoulême dans celui de Paris. Et la scénographie, la manière dont va se jouer la scénographie, va vous le permettre, parce que vous êtes d'abord dans un bifrontal et vous allez passer d'un bifrontal à un quadrifrontal. C'est-à-dire que toute la partie parisienne, eh bien, vous êtes autant. Vous êtes dans le salon de Madame de Bargeton dans la première partie, autant vous allez tout simplement être dans ce théâtre, dans ce ring.
Oui,
dans...
là, ça ressemble presque plus à un ring, puisque s'il y a des spectateurs
voilà,
sur les quatre
dans cette
côtés.
Arène, dans cette ouais. arène où vous voyez ce qui se passe entre l'ensemble de ces divers éléments de la société, tout ce cénacle, les politiques aussi, sociales, eh bien, se jouera devant vous. Il n'y a pas de sortie, c'est-à-dire Lucien, donc ici une femme, Lucien est comme pris dans une toile d'araignée entre l'ensemble de ses forces qui vont le conduire à être au fond un affreux personnage.
Puis qui vont l'éjecter en fait à un moment donné, il va plus avoir d'autres ressources que de retourner de là où il vient. Et on n'a pas trop envie non plus de vous divulgâcher complètement les changements de cette scénographie, parce que même si elle a l'air très simple, hein, il n'y a pas véritablement de décor et il n'y a pas du tout de tentative de reconstitution réaliste de ce Paris, mais il y a quand même des modifications qui vont se produire durant le spectacle et qui auront une dimension symbolique que je ne vais pas vous dévoiler maintenant pour que vous ayez quand même un peu de travail encore à faire en tant que spectateur.
Oui, mais c'est le passage de la province à la grande ville qui est la grande affaire du 19e siècle, mais encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, vu la position de Paris, en tout cas... en France, c'est
bien
pas
sûr.
Toujours le cas dans d'autres pays.
Oui, et Pauline Bell s'intéresse vraiment à ce que le monde urbain, ce monde de la grande ville, fait aux relations entre les gens et notamment dans le monde de l'art. Et...
oui, parce que le théâtre est d'abord parisien tout au long du 19e siècle et même tout au long du 20e siècle. Il faudra attendre très longtemps pour que le théâtre soit
décentralisé.
Hein. Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la centralisation théâtrale à Paris, mais qu'on a aussi chez Proust, par exemple. Donc c'est exactement la même question. Ce théâtre du social est fondamentalement parisien. Il l'est aussi en province, à Angoulême, mais là c'est la grande affaire. C'est-à-dire il est à un niveau
exponentiel. Il faut monter à la capitale de toute manière pour se faire reconnaître, et il n'y a pas de provincial qui puisse arriver à la hauteur des réputations qui se sont forgées à Paris. Voilà.
Alors, peut-être une dernière chose, mais tu viens d'en parler parce que nous n'en avons pas reparlé, à savoir ce texte de Verhaeren, justement, indique déjà ce qu'est la grande ville, c'est-à-dire cette ville de la fin du 19e siècle, donc, où déjà quelqu'un, déjà comme Rilke, qui, venant de sa campagne allemande à Paris chez Rodin, a découvert quelque chose de terrible. C'était un moment très difficile, cette rencontre avec la grande ville, et Verhaeren décrit cela.
Oui, parce que Verhaeren écrit un petit peu plus tard, c'est pas en 1820, c'est pas tout à fait la même période que Balzac, mais en même temps, ça dit tout à fait cette force et cette puissance et ce côté monstrueux aussi, un peu dévorateur, hein, ce côté Léviathan de la ville de Paris. D'ailleurs, au plan de la littérature, en fait, les poèmes de Lucien Chardon, Pauline a choisi aussi, pour le dire aussi, c'est aussi dans l'adaptation quelque chose d'important, ce sont des poèmes, en fait, c'est la traduction des poèmes de John Keats, un poète anglais. Et ça va être intéressant aussi de voir, d'entendre cette traduction, puisque quand il est dans le cercle d'Angoulême, il va dire ses propres poèmes. Hein,
Voilà, donc, en deux mots,
Ne manquez
venez
pas.
Venez voir Les Illusions Perdues et venez voir ce spectacle vraiment intéressant dans la grande salle le jeudi 21 mars à 19h, le vendredi 22 mars à 20h, et ce sera vraiment un très grand moment de théâtre.
Oui, parce que Pauline Bayle s'est fait connaître d'ailleurs pour l'adaptation de l'Odyssée et de l'Iliade déjà. Elle travaille sur les grands textes et sur le roman parce que c'est un travail singulier, personne ne l'a fait avant elle, ce qui est une bonne façon aussi de se faire connaître.
Et vive le théâtre!